Voilà. Alors, ce soir, nous allons étudier le péché, donc la nature du péché, en fait. Et je voudrais commencer en vous citant une parole de Martin Luther, qui disait « Si vous péchez, péchez carrément. » Au moins, c'est clair. Hein? Voilà. Alors, bon, ça peut paraître banal d'étudier le péché, parce qu'on en parle tellement qu'on se dit, bah oui, bah, le péché, on connaît. Voilà, et puis, au fond, c'est pas si simple que ça quand on réfléchit bien, parce que c'est vrai quand le Seigneur nous dit, tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Oui, mais moi, si j'ai la conviction de frapper quelqu'un. Donc c'est pas si simple que ça, vous voyez. Quelquefois on a la conviction de faire justice, hein. Bon, on va essayer d'analyser un peu tout ça avec les textes. C'est certainement une question délicate. Qu'est-ce que la vraie nature du péché? On sait très bien qu'il n'y a rien de plus horrible que le légalisme. Un jour, on fera une étude sur le légalisme. Hein. Parce que finalement, ce qui est intéressant, c'est de voir pourquoi il y a le légalisme, d'où il sort. Et au fond, les gens qui sont légalistes, qu'est-ce qu'ils cherchent? C'est ça qui est important. Alors le légalisme, c'est le respect minutieux de la loi, sans en comprendre finalement le sens. De cette loi, qu'est-ce que Dieu a voulu faire? C'est ça la question. Hein? Et la parole de Dieu nous dit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Hein? Mais l'apôtre Jean nous a donné la définition du péché. Elle est dans la Bible, la définition. Je vais vous la lire. Il nous dit dans 1 Jean 3,4, « Quiconque pêche transgresse la loi. » Et le péché est la transgression de la loi. Poum. Alors évidemment, les légalistes, là, ils sautent dessus, pieds joints. Hein. C'est... voilà. Et donc, nous, il faut essayer de comprendre ce soir, avec l'aide du Saint-Esprit, parce que c'est pas si simple que ça, et faire un chemin entre les écueils qui sont devant nous. Voilà. Alors, bon, je suis allé voir dans l'hébreu, dans le grec et dans le latin. Pour retrouver la définition des mots. Alors, dans l'hébreu, le mot utilisé pour désigner péché est chata. Chata. Ça signifie péché, pécheur, pécheresse, coupable. Voilà ce que ça signifie. Et on trouve également le mot chata, mais pas écrit de la même façon. C'est pas le même T. Qui signifie manquer son chemin, faire un faux pas. C'est aussi séduire, c'est manquer de quelque chose. Et ce mot est parfois associé avec avon, avon qui signifie perversité, dépravation, iniquité, culpabilité. Par exemple, ces deux mots, on les trouve dans Jérémie 5, 25, où il est dit, c'est à cause de vos iniquités que ces dispensations n'ont pas lieu, ce sont vos péchés qui vous privent de ces biens. Et on a les deux mots différents dans la même phrase. Hein? Si on va dans le grec, et je reprends la phrase de Jean, quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi, quand on va chercher ce mot péché dans le grec, c'est amartia. Et dans le sens, c'est manquer le chemin de la droiture. Manquer le chemin de l'honneur. C'est aussi s'éloigner de Dieu. C'est aussi ne pas participer. C'est aussi errer. Vous voyez, il y a beaucoup de sens, hein? Et puis alors, si on va dans le latin, là dans le dictionnaire Le Petit Robert, le terme vient du mot latin peccatum. Peccatum qui signifie faute, erreur. et son origine est inconnue. Et l'adjectif qui correspond est pécamineux et qui a donné le mot impeccable. On retrouve cette étymologie dans le mot peccadille, qui signifie une faute légère. Et le mot italien qui veut dire péché, c'est peccato. Oui, on retrouve tout comme ça. Alors, à travers tout cela, on entend quelquefois des prédications qui nous disent « péché, c'est rater la cible ». Hein, on a déjà entendu ça, et j'ai mis une petite parenthèse, et j'ai mis « quelle cible ?» point d'interrogation. Ah ouais, parce que, d'accord, moi je veux bien ne pas rater la cible, à condition que je sache laquelle. Alors, en réalité, le péché n'est pas une peccadille, hein. Le péché, je pense, on va voir, il y a plusieurs choses, hein, mais entre autres, le péché, c'est rater le chemin spécifique que Dieu a voulu pour chacun de nous. Il y a une volonté parfaite pour chacun de nous. Et puis, il y a aussi la volonté permissive de Dieu. Dieu nous permet de faire un tas de choses, mais il a aussi une volonté parfaite pour chacun. Et c'est ça que nous devons tendre à réaliser dans nos vies, cette volonté parfaite. Et ça passe par des étapes. Par définition, c'est impossible de réussir ce chemin-là en s'éloignant de Dieu. Pas possible. Et surtout aussi en s'éloignant de ces instructions précises pour chacun de nous. Le chemin est différent pour chacun. Il faut bien se mettre ça dans la tête. Il est différent pour chacun et on n'a pas trop à juger le chemin d'un autre. Sauf si on voit qu'il s'en va dans le mur de façon évidente. Là, on peut quand même lui faire des remarques. Mais c'est un autre sujet. Ça, c'est le sujet de est-ce que j'ai le droit de juger ou pas juger, de quoi j'ai le droit de dire, de pas dire, etc. Et ça, c'est encore un autre sujet d'étude. Intéressante. Parce qu'en fait, je peux intervenir dans ma sphère de responsabilité, mais pas au-delà. Pas au-delà. Je ne vais pas me mêler de l'éducation des enfants que je vois dans la rue, ce n'est pas mes enfants. Mais mes enfants, alors oui, j'ai des choses à leur dire. Quand ils se marient, ce n'est plus ma responsabilité. Donc vous voyez qu'il y a des... Voilà. Et tout ça est bien à définir, bien à être clair, parce que quelquefois, c'est un autre sujet que j'aborde là, mais je ne vais pas l'approfondir, mais quelquefois on dit, faut pas juger, et puis à un autre moment, on juge de tout. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Et la Bible, là, nous permet de réfléchir avec sagesse et de faire le tri entre les deux. C'est un bon sujet aussi à étudier, ça. Juger, pas juger. Hein? Bon, revenons à nos moutons. Pour suivre le chemin que Dieu a défini pour chacun de nous, eh ben, il va falloir être en communion avec lui, parce que déjà, il faut déjà découvrir ce qu'il veut de nous. Et c'est propre à chacun. En tout cas, si on prend le psaume 32, j'aime bien ce psaume, il explique que la repentance conduit au chemin de Dieu pour nous. Regardez, psaume 32, je vous lis juste deux versets, 8 et 9. « Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. » Ça, c'est juste après qu'il a dit qu'il s'est repenti. Hein. Parce qu'avant, on a cette parole où il nous dit « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, j'ai dit, j'avouerai mes transgressions. » Et à ce moment-là, Dieu répond, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Il ne dit pas, je te montrerai la voie que tout le monde doit suivre. Hein. C'est quelque chose d'extrêmement précis. Hein. Et je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mors dont on les part afin qu'ils ne s'approchent pas de toi. Vous voyez, c'est vraiment, le psaume 32, c'est vraiment un beau psaume, très profond. Après la repentance, tu t'approches du Seigneur, il t'indique le chemin, il t'instruit. Voilà pourquoi, maintenant, je vais prendre 1 Jean 3, 6, dans la version Chouraki, là, il va nous expliquer que le péché nous éloigne de l'instruction de Dieu. Quiconque fait une faute agit aussi sans la Torah. Et la faute est sans la Torah. Vous le savez, celui-là s'est manifesté pour enlever les fautes, et la faute n'est pas en lui. Quiconque demeure en lui ne faute pas. Quiconque faute ne l'a pas vu ni pénétré. Parce que la communion dans la Bible, l'amour, la communion, c'est une vraie pénétration, hein, au sens du mariage. Hein. Donc, pénétrer la Torah, pénétrer la pensée de Dieu, etc. Hein. Alors, finalement, la réflexion nous amène à qu'est-ce que c'est que transgresser la Torah ? Puisque on nous a dit, un peu plus haut, le péché est la transgression de la loi, ou si vous préférez, de la Torah. Le mot Torah, c'est quelque chose qui définit un objectif et on lance des flèches vers cet objectif. C'est ça, Torah. Donc c'est un chemin à suivre. On peut parler de l'enseignement de Jésus. L'enseignement de Jésus, c'est la Torah de Jésus. Alors la Torah... Qu'est-ce que la transgression de la Torah ? C'est, ça consiste à ne pas se soumettre à l'autorité de Dieu. En fait, c'est toujours, ça revient toujours à ça. Péché, on va voir, c'est ne pas se soumettre à l'autorité de Dieu. On peut lire par exemple Éphésiens 2:10, nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Et Chouraki le dit de cette façon, « Oui, de lui nous sommes l'ouvrage, créé dans le Messie Yeshua, pour de bonnes œuvres qu'Elohim a préparées d'avance pour que nous y marchions. » Des œuvres dans lesquelles nous marchons. Vous voyez, c'est un chemin. Et ça me fait toujours penser à une chose, c'est qu'il y a deux personnes dans la Bible qui ne sont pas mortes. Il y a Enoch et Élie. Enoch, c'est tout à fait dans la Genèse, au début. Et il est dit, Enoch marcha avec Dieu, alors Dieu le prit. Et la condition de l'enlèvement, c'est de marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu. Et ici, les œuvres bonnes qu'Elohim a préparées d'avance pour que nous y marchions. Donc c'est important cette question-là, mais finalement on se pose toujours la même question. Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire de ma vie ? Alors si je passe ma vie à faire des peccadilles, c'est le mot, des choses qui sont légères, qui ne servent à rien, qui je passe mon temps à jouer, à les jeux électroniques, je ne sais pas quoi moi, mais vous croyez que c'est ça le but de Dieu dans nos vies, nous chrétiens ? Certainement pas, hein. Alors, il est clair que chacun de ceux et celles qui ont confié leur vie à Jésus ont des œuvres à pratiquer qui leur sont propres. Moi, je ne sais pas ce que Dieu vous a demandé. Mais ces œuvres-là, elles ont été préparées d'avance. Au fond, le péché, c'est rater ce chemin-là. Et ça doit être quelque chose qui vient vraiment nous habiter, ces œuvres, parce que tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Donc ces œuvres-là, ça doit être une conviction que Dieu met en vous, en moi, je dois les faire, je dois le faire. Si je ne fais pas, je manque quelque chose. Voilà. Alors, je vais vous prendre quelques exemples de ce que c'est que le péché. On a la parabole des conviés. Je vais vous la relire. C'est dans Luc 14, versets 15 à 24. Un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Vous voyez, je vous ai parlé de l'enlèvement tout à l'heure, hein, avec Enoch, qui marchait avec Jésus. Là, prendre son repas dans le royaume de Dieu, ça veut dire qu'on a été enlevé. Hein? Et Jésus lui répondit, « Un homme donna un grand souper, et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, « Venez, car tout est déjà prêt. » Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ. Je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « J'ai acheté 5 paires de bœufs. Je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « Je viens de me marier. C'est pourquoi je ne puis y aller. » Le maître, alors, le serviteur de retour appela ces choses, rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, « Va promptement dans les places et dans les rues de la ville. Amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles, les boiteux. » Et le serviteur dit, « Maître, ce que tu as ordonné a été fait, il y a encore de la place. » Et le maître dit au serviteur, « Va dans les chemins le long des haies, et ce que tu trouveras, contre-allée d'entrée, afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera à mon souper. » C'est bien connu cette histoire. On la connaît bien. Mais vous voyez, il y en a trois là qui déclinent l'invitation de Dieu. Le premier, il a acheté un champ. Le second, il a acheté une paire de bœufs. Et le troisième, il vient de se marier. C'est trois excuses. D'accord ? En soi, il n'y a pas de péché à se marier. Il n'y a pas de péché à acheter des bœufs. Il n'y a pas de péché à aller acheter un champ puis aller le voir. Il n'y a pas de péché à ça. Alors il est où le péché ? Le péché, ça a été de refuser l'invitation. Ça a été de dire, j'ai ma voiture en premier, ou j'ai ma femme en premier, ou j'ai mon champ en premier. C'est ça le péché. Parce que le jour de l'enlèvement, on ne va pas dire au Seigneur, attends, j'ai pas fini, il faut encore que j'aille planter mes poireaux. Hein ? Seigneur, il va dire, je suis désolé, là, t'as raté le truc. Hein? Donc, vous voyez, ces trois excuses. Et donc, c'est pas pour mauvaise conduite que ces gens ne sont pas dans le royaume. Il fait chaud, hein, ici. Voilà, ça y est, c'est reparti. Donc, c'est pas pour mauvaise conduite, c'est important de comprendre ça. Hein. C'est pas pour mauvaise conduite, c'est pour désobéissance. Pas pareil. Et maintenant, les gens qui vont rentrer, c'est des gens qu'on va chercher le long des... Ça veut dire quoi, ce truc-là ? Ben, c'est justement ces gens-là qui en général sont des gens de mauvaise vie. C'est ça que ça veut dire en gros, hein. Les prostituées, etc. Ceux qui ne rentrent jamais dans les églises parce que, ben voilà, ils vivent dans un état, ils sont loin de Dieu. Alors on va les chercher contre allée d'entrée. Et c'est eux qui vont être au repas. Ah. Les prostituées nous devanceront dans le royaume de Dieu. Le Seigneur l'a dit. Hein. Maintenant, prenons une deuxième parabole. C'est Matthieu 21, versets 28 à 32. Que vous ensemble, un homme avait deux fils. Le premier, s'adressant au premier, il dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Il répondit, je ne veux pas. Ensuite, il se repentit et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit, je veux bien, Seigneur. Et il n'y alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Il répondit le premier, et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui, et vous qui avez vu cela, vous n'êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. Quel jugement, hein? Quel jugement, hein? Et celui qui a dit oui n'est pas rentré dans la maison du Père. Celui qui a dit non est rentré parce qu'il s'est repenti et il a fait. Alors, voyez que le péché s'oppose à l'autorité de Dieu. Vous allez me dire, oui, mais quand même, qu'en est-il de ce qu'on appelle couramment les gros péchés, ceux qui se voient, hein? L'alcoolisme, tout bazar, enfin, vous voyez, tous ces trucs-là, hein? On se dit, mais c'est évident que si on pratique ces choses-là, on a quand même de la difficulté à suivre le chemin que le Seigneur nous avait préparé d'avance. Mais n'empêche que tout ce qui est de l'immoralité, tout ce qui est des péchés qui se voient bien, comme on voit dans l'Ancien Testament, tout ce qui est décrit dans le Lévitique, etc., eh bien, ça aussi, ça fait partie de rater ce que le Seigneur veut pour nous. Dans Éphésiens 4, versets 25 à 32, qu'est-ce qu'on lit? Il nous dit, c'est pourquoi renoncer aux mensonges. Que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, ne donnez pas accès au diable, que celui qui dérobait ne dérobe plus. Et puis un peu plus loin, qu'il ne sorte pas de votre bouche aucune parole mauvaise. Un peu plus loin, n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaisse du milieu de vous. Et puis dans un autre verset, Éphésiens 5, 18 ou 5, 8, je ne sais plus, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Dans 1 Corinthiens 6, 18, fuyez l'impudicité. Quelque autre péché, donc vous voyez, c'est bien cité comme péché, qu'un homme commette, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Je rappelle que le corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Celui qui détruit le corps ou le temple du Saint-Esprit, Dieu le détruira. C'est écrit, hein? Donc, quiconque est son frère est un meurtrier. 1 Jean 3, 15. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle. Donc, vous voyez, mensonge, ivresse, adultère, vol, meurtre, etc. Et on pourrait avoir une liste infinie. À travers ces textes, on voit que c'est tous ces gros péchés qui se voient bien comme le nez au milieu de la figure sont contraires à la volonté de Dieu. Qu'est-il dit concernant les personnes qui pratiquent ces actes? Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront du royaume de Dieu. Ça nécessite la repentance. Et la repentance entraîne que le chemin nous est présenté, que j'aurai l'œil sur toi. C'est le psaume 32. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. Après, c'est tout un problème. Comment me parles-tu, Seigneur? Je me suis repenti. Maintenant, tu vas me parler. Tu me l'as promis. C'est dans le psaume 32, entre autres. Alors, comment tu me parles? Et alors là, on assiste à toutes sortes de choses. On voit des chrétiens qui disent, ben, moi, je veux que le Seigneur me parle par des songes. Hein? Il y en a d'autres qui disent, ben, moi, je veux qu'il me parle, qu'il vienne dans ma chambre, qu'il me parle. Mais vous trouvez toutes sortes de chrétiens. Hein? Alors que Dieu parle dans des petites choses banales, simplement en rencontrant quelqu'un, il donne une indication, etc., etc. Les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, la l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme j'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Si on lisait vraiment ces choses-là, je vous assure qu'on prendrait du temps pour examiner notre vie. Dans l'Apocalypse, pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sont dans les temps de feu. Donc la parole est claire, et ceux et celles qui pratiquent ces péchés n'hériteront pas du royaume. Mais il n'y a pas que ces péchés-là. Il y a les péchés dans l'Église. Ce verset qu'on connaît tous bien, « Parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. » Et Chouraki dit, « À cause du comble de la non-Torah, il se refroidira l'amour de beaucoup. Mais qui tiendra jusqu'à la fin sera sauvé. » Donc, le mot charité, ou encore le mot amour, utilisé dans le texte qui est là, c'est agapé, et c'est le même qui est utilisé par Jésus quand il dit « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » Alors, on voit que Jésus ne s'adressait pas au monde à ce moment-là, mais à ses disciples, à sa future église, et par conséquent, Jésus annonçait qu'à la fin, l'amour diminuerait. Chouraki parle de la non-Torah, ça veut dire qu'à la fin des temps, de nombreux chrétiens rejettent l'enseignement de Jésus, l'enseignement de la parole. Je suis frappé, ça va peut-être être sévère ce que je vais dire, mais je suis frappé du peu d'enseignement dans les églises actuellement. Par contre, on va passer des heures et des heures dans la louange. Alors là, à la louange, en général, il y a du monde d'ailleurs. Hein, mais vous voyez très peu de monde dans les églises au moment de réunions de prière et très peu de monde pour les enseignements. Ça, c'est quelque chose qui est choquant. Et en tout cas, qui me choque moi. Parce que je me dis, qu'est-ce qu'ils viennent chercher? Ils viennent chercher un bon moment de divertissement. Voilà. Et finalement, on en arrive à l'église du divertissement. À l'église du divertissement. Mais au fond, la foi des gens, elle n'arrive pas à grandir. Parce que même, ça va être très sévère ce que je vais dire, mais prenez les chants qu'on chante actuellement. Par rapport aux chants qu'on chantait il y a 30 ans, les paroles sont vides. Elles sont vides. Prenez les chants d'il y a 30 ans, chaque fois c'était un enseignement en soi. Alors moi, tout ça, ça me choque et je me dis, c'est effectivement ce qui arrive actuellement, c'est qu'on a de plus en plus de chrétiens qui rejettent, mais sans le savoir, vous savez, c'est gentiment fait, hein. Ce qui rejette l'enseignement, la Torah. Ça signifie encore que ces personnes s'illusionnent. Il s'agit de croyants qui ont placé leur emploi du temps, leurs loisirs ou leurs projets au-dessus de la parole de Dieu. Dieu doit être en premier dans nos vies, en premier. Et s'il n'est pas en premier, alors on ne pourra jamais atteindre ce que le Seigneur a voulu que nous fassions sur terre. Ce n'est pas possible. Pour le faire, il faut être en premier devant le Seigneur. Donc celui qui prend son emploi du temps, et puis c'est son emploi du temps qui domine sa vie. Et vous savez, là aussi, il y a une autre étude qu'on peut faire, c'est les techniques de Pharaon pour nous bousiller notre emploi du temps. Alors, c'est tous ces gens, au moins certains d'entre eux, s'illusionnent. Quand on est dans l'illusion, comment on est? C'est John Bevere que je cite. Quand on est dans l'illusion, on croit de tout son cœur qu'on a raison, alors qu'en réalité, on a tort. Ça, c'est l'illusion. Quelle est la racine de l'illusion? Je cite Jacques 1, 22. Mais mettez la parole en pratique et ne l'écoutez pas seulement, vous séduisant vous-même. Je peux me séduire moi-même. Me séduire moi-même. Quand quelqu'un entend la parole, ne la met pas en pratique, l'illusion pénètre dans son cœur et dans son esprit. Aimer la vérité ne consiste pas à aimer l'entendre, mais c'est aimer lui obéir. Et on voit par exemple, c'est un texte que je prends dans le livre d'Ézéchiel. Moi, ça m'a toujours frappé depuis 30-35 ans, je regarde. Quand vient un prophète dans une région, ou quand vient un homme qui a le don de guérison, mais c'est fou comment les gens peuvent venir. C'est plein à craquer. Alors là, il n'y a plus de question d'emploi du temps, quoi que ce soit, c'est un prophète qui vient, il y aura peut-être une parole pour moi. Ah, si je pouvais avoir une parole. Hein, c'est pas ça? Souvent, c'est ça. Il y a des choses à dire, vous savez, sur les prophéties. Il y a des choses à dire parce que un prophète, je ne sais pas comment ça fonctionne, c'est par l'esprit. Mais un prophète a cette capacité de sentir ce que la personne qui est en face a besoin. Et il y a une espèce de passage qui se fait comme ça, et il peut très bien y avoir une prophétie qui répond exactement à ce que la personne attend. Mais ça ne vient pas du Seigneur. Et ça, c'est encore un stratagème du malin pour faire tomber. Il y aurait beaucoup à étudier sur cette question parce que c'est très important. Il y a eu des cas comme ça, phénoménaux, de gens qui ont reçu des paroles quand un prophète est venu. Ils se sont accrochés à ces paroles, puis ça ne s'est jamais réalisé. Mais c'était ce qu'ils auraient voulu qu'il se passe. Oui. Alors, se séduire soi-même. Regardez, quand je vous dis que les gens vont écouter quelqu'un qui parle bien, qui vont voir un homme qui a un don de guérison parce qu'ils ont un bobo à la jambe, et puis etc., ou ils ont mal dans le dos. Alors voilà, et puis ça, puis ils rentrent chez eux, puis voilà, merci Seigneur. Ah oui, et qu'est-ce que ça a changé dans ta vie? Tu as reçu une bénédiction, est-ce que tu remercies le Seigneur? Quelquefois, il vaut mieux pas être guéri, mais guérir de l'intérieur, de son âme, pour être sauvé, plutôt que de courir après toutes sortes de choses et finir en enfer. Alors, regardez, Ézéchiel 33 nous dit « Et toi, fils de l'homme, les enfants de ton peuple s'entretiennent de toi, près des murs et aux portes des maisons. Et ils se disent l'un à l'autre, chacun à son frère, venez donc écouter quelle est la parole qui est procédée de l'Éternel. Et ils se rendent en foule auprès de toi. Et mon peuple s'assied devant toi, ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent pas en pratique, car leur bouche en fait un sujet de moquerie. et leur cœur se livre à la cupidité. Voici, tu es pour eux comme un chanteur agréable, possédant une belle voix et habile dans la musique. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent pas en pratique. Quand ces choses arriveront, et voici elles arrivent, ils sauront qu'il y avait un prophète au milieu d'eux. Est-ce que c'est pas vrai, cette histoire? L'amour du plus grand nombre se refroidit, mais on est attiré d'aller écouter, d'aller voir des prophètes, d'aller écouter des gens qui parlent bien, etc., etc., etc. Mais quel est l'état de nos vies? Quel est l'état de nos vies? La séduction de l'iniquité. En général, vous savez, l'iniquité flagrante, ça ne séduit pas les croyants. Il faut être bien plus subtil. Et regardez ce que Paul disait aux Corinthiens, 2 Corinthiens 11, 3. « De même que le serpent séduit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. » Vous voyez, Ève a été séduite, tandis qu'Adam savait ce qu'il faisait, lui. La différence, c'est que Adam avait entendu Dieu, tandis que Ève avait entendu Adam. Pas pareil. Qu'est-ce que tu veux me dire à moi, Seigneur? Parle-moi dans ma vie. Dis-moi qu'est-ce que je dois faire dans ma vie. Comment tu veux que je sois? C'est une prière qu'on peut faire. C'est une prière qu'on peut faire. C'est le psaume 32. Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions. Seigneur, je veux marcher dans tes voies. Je veux vraiment te mettre en premier dans ma vie. On va analyser un petit peu la séduction d'Ève. Regardez, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit, nous mangeons des fruits des arbres du jardin, mais quant au fruit qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, de peur que vous mouriez. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans. Il y a quelque chose qui cloche. Dieu n'a jamais dit, vous n'y toucherez pas. Il n'a jamais dit ça. Il a dit, vous n'en mangerez pas. Elle dit, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas. Donc, vous voyez, c'est la personne qui dit ça, c'est une personne qui est en train de modifier l'écriture. Vous voyez? Elle a rajouté quelque chose. Pourquoi? Ben parce qu'elle elle a fait un chemin dans sa tête et elle en a conclu que Dieu a dû dire ça. Mais au fond, ce qui est grave, c'est qu'elle n'a pas compris pourquoi Dieu avait dit de ne pas en manger. Elle n'a pas compris pourquoi, elle n'a pas compris la motivation de Dieu. Et ça veut dire que la loi n'était pas inscrite dans son cœur. C'était une loi qui est inscrite sur une pierre, mais pas dans son cœur. Alors là, c'est quelque chose qui se modifie, qui se trafique. C'est une information communiquée, ça n'est pas une information révélée. Vous voyez? Et le croyant qui n'a pas de la révélation, qui n'a pas par la révélation l'esprit des choses de Dieu, quand il ne comprend pas les motivations de Dieu, il devient légaliste. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et son alliance leur donne instruction. Alors, les pensées et la compréhension de Dieu sont révélées à ceux qui le craignent. Les motivations de Dieu sont révélées à ceux qui le craignent. Écoutons la fin du discours de l'Ecclésiaste. Crains Dieu et observe ses commandements, c'est là que doit faire tout homme. Alors voyez, le serpent s'est attaqué au fondement du trône de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Le fondement du trône de Dieu, c'est la justice et le droit. D'accord? De sorte que là, le malin a fait croire que Dieu a menti. Et par conséquent, s'il a menti, c'est qu'il n'est pas net. Et surtout, c'est qu'il n'est ni bon, ni honnête. Donc, en faisant douter Ève comme ça, il commence à faire douter Ève sur ce qu'est Dieu et sur les motivations de Dieu. Finalement, Dieu n'est pas si bon que ça. Et puis après avoir saisi le fruit, regardez comment ça se passe. Ils prennent le fruit, elle prend le fruit, elle le mange. Elle le donne à son mari, il en mange. Il ne se passe rien. Il ne se passe rien. Alors on va continuer. Il ne se passe rien. Ça, mais ce qui s'est passé était beaucoup plus grave, c'est que sa vision des choses, et notamment sa vision de Dieu, avait complètement changé. Sa vision de Dieu, elle était polluée. Et il n'avait plus une vision de Dieu bon, qui voulait notre bien, et dont l'obéissance est bonne pour nous. Obéir à Dieu, c'est bon pour nous. Pourquoi on n'obéit pas à Dieu? Parce qu'on imagine toujours que ce qu'on fait, c'est mieux. Qu'on a des choses plus urgentes qui sont mieux. Et que finalement, ce qu'il nous demande, si on peut attendre demain, c'est aussi bien. Vous comprenez ça? Et donc, c'est important de saisir que la vision, elle a changé là. Et la volonté de l'homme l'a emporté sur la volonté de Dieu à ce moment-là. Or, il faut qu'on sache, et il faut qu'on sache une fois pour toutes, qu'il n'existe rien de bon en dehors de la volonté de Dieu. Et je veux encore citer ici John Bevere. Il dit, même si cela a l'air bon, si ça sent bon, même si cela peut vous rendre très riche, très sage, vous couvrir de succès, si cela ne vient pas de la volonté de Dieu, ça finira par vous entraîner sur un chemin de douleur, de regrets immenses et pour finir, la mort. Alors, à partir de là, vous voyez il y a une vision de Dieu qui a changé et on commence à allumer des feux qui ne sont pas des feux de Dieu. Dans l'ancienne alliance, il y avait les fils d'Aaron, ils étaient quatre. Et puis, il y en a deux qui ont allumé un feu étranger. Vous vous rappelez? Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, ils mirent le feu, posèrent du parfum dessus. Et ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger qui ne leur avait pas été ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma, ils moururent devant l'Éternel. Donc, vous voyez, il y a une bonne et une mauvaise manière de servir Dieu. Parce qu'au fond, il voulait servir Dieu. Il voulait servir Dieu. Mais c'était d'une mauvaise manière. Et ils n'avaient pas compris que le feu humain, il est pollué dans son essence. Ma volonté humaine, elle est polluée. Alors, il faut être certain que le Seigneur est d'accord quand on entreprend quelque chose avec lui, que c'est lui qui met la première pierre. Et il faut être certain non seulement sur l'objectif, mais sur la façon de le faire. Ésaïe 50 nous dit « Quiconque parmi vous craint l'Éternel, qu'il écoute la voix de son serviteur. Quiconque marche dans l'obscurité et manque de lumière, qu'il se confie dans le nom de l'Éternel, qu'il ne s'appuie sur son Dieu. Voici, vous tous qui allumez un feu et qui êtes armés de torches, allez au milieu de votre feu et de vos torches enflammées. C'est par ma main que ces choses vous arriveront, vous vous coucherez dans la douleur. » Vous avez allumé vos propres torches, vos propres lumières, vos propres choses, vous ne m'avez pas consulté, et bien vous vous coucherez dans la douleur. C'est pas méchant de la part de Dieu, il nous prévient. La vraie amour, la vraie bonté, c'est de s'approcher de Dieu. Il veut notre bien. Vous savez, dans cette parabole des talents, il y en a un, il y a eu un talent, il l'a enterré. À la fin, Dieu lui dit, méchant serviteur. Méchant serviteur, tu savais que j'étais un homme dur. Dieu dit ça, tu savais que j'étais un homme dur. Méchant serviteur, tu savais que j'étais un homme dur. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors que les autres, ils en avaient eu 5, ils en ont fait 10, etc., etc. Méchant serviteur, tu savais que j'étais un homme dur. Il y a un gros problème sur ce serviteur-là. Et vous dites, vous voyez, il est bien marqué, c'est un serviteur. C'est pas un étranger. Hein. Ce serviteur, il trouvait que Dieu était dur et méchant. Il n'avait pas la relation avec Dieu. Parce que Dieu n'est ni dur ni méchant. Lui, il trouve que c'est un Dieu dur et méchant. Alors, quand c'est comme ça, il préfère enterrer son truc. Et là, il devient méchant à son tour. Enterrer, c'est grave, vous savez. On a reçu des talents, on a reçu un enseignement. Si ta vie, elle déborde d'occupation, ton emploi du temps te déborde d'occupation, tu n'as pas le temps de t'occuper de tes enfants, tu n'as pas le temps de les enseigner. Tu es un méchant. Tu vas profiter de la vie, d'accord? Tu seras peut-être sauvé, peut-être. Mais tes enfants, tu les envoies en enfer. Tu es un méchant. Dieu en premier. Alors, c'est une façon de marcher à sa propre lumière. Tenez par exemple Abraham. Abraham, dont l'épouse Sarai était stérile. Au bout d'un moment, il s'inquiète et puis il va vers Agar. Et puis là, il y a Ismaël. Bon. Entre parenthèses, il n'aurait jamais eu Agar s'il n'avait pas douté, Abraham, à un moment donné. Parce qu'à un moment donné, il est allé en Égypte. Il n'aurait pas dû. Et là, en Égypte, il a eu une servante qui s'appelle Agar. Il est revenu avec. Et puis voilà. Et puis ça continue. Et il va coucher avec Agar, il a Ismaël. Et bien regardez maintenant. La prophétie dit « Ismaël sera comme un âne sauvage. Sa main sera contre tous et la main de tous sera contre lui et il habitera en face de tous ses frères. » C'est l'exemple typique, vous voyez, qu'il a allumé un feu étranger et maintenant ce feu étranger, ben, il va nous brûler tous. Parce qu'Ismaël répand une religion mortifère. C'est l'exemple de David qui voulait faire entrer l'Arche de l'Alliance dans Jérusalem. Celle-ci avait été miraculeusement rendue par les Philistins. Les Philistins, ce n'étaient pas des chrétiens, ce n'étaient pas des juifs. Les Philistins, ils connaissaient rien du tout à la parole de Dieu. Alors, pour rendre l'arche, ils l'ont mis sur un char. Et puis, ils ont mis des bœufs devant. Ils ont donné des grands coups de fouet. Puis, ils se sont mis derrière. Ils ont dit, pourvu qu'il s'en aille, ce truc. Et effectivement, le chariot est rentré en Israël. Et ils ont dit, bon débarras. Mais David, lui, il voulait faire rentrer cette arche à Jérusalem. Il s'est dit, tiens, ça marche bien sur un chariot. Mais pourquoi il n'a pas pris les Écritures? Pourquoi il n'a pas regardé? Parce que finalement, au lieu de faire porter l'arche comme Dieu l'avait demandé à Dodome, etc., il le fait sur un chariot comme les Philistins. Voilà, il copie sur les Philistins. Et vous savez l'histoire. Le chariot qui penche, et le serviteur qui est tué, et David qui comprend rien. Quand on sert Dieu, par exemple pour organiser une église, c'est servir Dieu, on ne sert pas comme les autres hommes servent. On ne va pas prendre des méthodes de management, on ne va pas prendre des méthodes de marketing pour faire de l'évangélisation, on ne va pas prendre tous ces trucs-là qui viennent du monde. Du business, effectivement. Tout ça n'a rien à faire dans la maison de Dieu. Quand Dieu donne un objectif, il donne aussi une façon de faire. Et si on ne la trouve pas, c'est qu'on n'est pas proche de lui. Ça, on est fautif. Seigneur, si tu nous dis de faire quelque chose, maintenant dis-nous comment on doit faire. Vous savez, quand ils ont attendu 10 jours dans la chambre haute pour avoir le Saint-Esprit, le Seigneur leur a dit, attendez, attendez, attendez que l'Esprit vienne, attendez ma réponse. Pas la peine de commencer à l'avance, vous allez allumer un feu étranger. Alors, ensuite, il y a la question, vous savez, la question de la justification du péché, puisqu'on est dans le sujet du péché. Hein. On vit dans une société qui a fait disparaître la notion de péché. Une des techniques qui a été utilisée, c'est de changer le nom des péchés. Alors, on appelle ça dépénaliser des actes. Hein. Par exemple, l'avortement, qui était un crime il n'y a pas si longtemps que ça, a été dépénalisé, on le nomme IVG, interruption volontaire de grossesse, et puis bientôt ça s'appellera interruption médicalisée de grossesse. Et c'est encore mieux. Bientôt ce sera vraiment quelque chose d'honorable, très beau. Hein. Depuis que les avortements ont été légalisés dans le monde, eh bien, il y a eu à peu près 1 milliard de morts.
1 milliard de bébés?
Ouais. Sur toute la Terre. Il n'y a jamais eu une guerre comme ça, hein? Jamais. Vous voyez, cette mentalité de dépénalisation a gagné le monde chrétien. Et nous savons que quand Ève et Adam ont péché, ils ont automatiquement reporté la faute sur le malin. Donc, tout de suite, le péché, c'est presque un automatisme, c'est de rechercher une excuse. Le péché entraîne la recherche d'excuses. Pourquoi ? Ben, tout simplement parce que la recherche d'une excuse, quand on en tient une bonne, eh bien, ça nous évite de nous repentir. Donc, les excuses, c'est quelque chose d'intelligent que le malin, il a réussi aussi à infiltrer comme ça. Et grâce à ça, innombrable quantité de personnes passent à côté de la repentance. Les excuses. Alors, vous savez, on doit comprendre qu'un crime reste toujours un crime aux yeux de Dieu, même s'il y a des circonstances atténuantes, même s'il y a des excuses. L'acte est là. Et on comprend très bien que les gens vivent dans une société qui est dure, qui est injuste. Et quelquefois, ces personnes sont conduites à faire des actes terribles, en toute bonne conscience. Prenez, c'est enfantin, mais prenez Robin des Bois, qu'est-ce qu'il faisait? Il volait les riches pour donner aux pauvres. C'est pas super ça? Ben, je m'excuse, mais c'est du vol. Alors, vous voyez, l'acte du péché est là, et c'est le rôle du Saint-Esprit d'amener les personnes à réaliser la gravité de l'acte. Et prenez par exemple Samson. Samson, sa force était dans les cheveux. Alors, il se croyait invincible, et son secret, il a fini par le dévoiler à Delilah. Et bien, quand il a dévoilé son secret, c'était un péché. Mais il s'en est même pas rendu compte. Et lorsque ses cheveux ont été coupés, il pensait toujours être le même. Mais il est écrit, il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Quand Saül, de retour du conflit avec Amalek, il revient tout joyeux, Saül, tout content, il a gagné la guerre. Mais il n'a pas réalisé qu'il n'a pas fait le travail complètement. Il n'a pas tué Amalek, et puis il a gardé aussi des brebis pour les faire un grand michoui. Hein? Bon, 1 Samuel 15, qu'est-ce qu'on voit? Dieu qui parle et qui dit « Je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi, il n'observe pas mes paroles. » Samuel, ça faisait pas longtemps qu'il l'avait oint, en plus. Alors Samuel, il se met en colère toute la nuit. Il cria à l'Éternel toute la nuit. Il se leva de bon matin pour aller au-devant de Saül, et on va lui dire, Saül est allé à Carmel, et voici, il s'est érigé un monument, puis il s'en est retourné, et passant plus loin, il est descendu à Gilgal, Samuel ne se rendit auprès de Saül, et Saül lui dit, sois béni de l'Éternel, j'ai observé la parole de l'Éternel. Vous voyez, complètement inconscient, parce qu'il n'a pas observé jusqu'au moindre détail tout ce que Dieu lui avait donné à faire. C'est le voile de l'illusion. Et le voile de l'illusion amoindrit le sens de la culpabilité et développe celui du raisonnement. Alors, quand le raisonnement est en route, eh bien, vient la justification, l'auto-justification qui accompagne l'endurcissement du cœur. C'est ce qu'on appelle des propres justes, sa propre justice. Mettez en pratique la parole, ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Vous trompant vous-même. Alors, Dieu nous cherche, il veut, j'en parle depuis des mois, hein. Je m'excuse si je me répète, ça changera bientôt, mais Dieu veut absolument nous amener à la repentance, à ouvrir nos yeux. Et pour ça, il y va graduellement avant d'avoir été humilié. Psaume 119, je m'égarais, maintenant j'observe ta parole. Il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts. Je sais, ô Éternel, que tes jugements sont justes, car c'est par fidélité que tu m'as humilié. La souffrance, quelquefois, voyez. On peut parler un petit peu de la doctrine de Balaam, doctrine démoniaque qui a porté ses fruits puisqu'il était impossible de maudire Israël et donc il fallait pourrir Israël de l'intérieur. Donc Balaam a enseigné la corruption et puis la corruption est entrée dans Israël et suite à ça le malheur. C'est dans l'Apocalypse, hein. C'est dans l'Apocalypse. J'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël, pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Et à ce moment-là, il y a eu je ne sais plus combien de milliers de morts à cause de ça. Quand on n'a pas, quand on marche dans les voies de Dieu, on ne peut pas être maudit. Le malin ne nous touche pas. Quand on marche dans les voies de Dieu, quelquefois le Seigneur permet au malin de nous toucher pour nous ramener. Qui vous a fasciné, aux Galates, dépourvus de sens? Qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? Le fruit de la désobéissance. Le fruit de la désobéissance, on le voit dans l'histoire de David. David était béni. Il avait de nombreux enfants. Le royaume était puissant. Mais il était en guerre. Pourquoi est-ce qu'il n'était pas à son poste au front? Son péché, il est là. Hein? Son péché, il est là. Il n'était pas dans le... Il avait quelque chose à faire. Il avait une position à prendre. Il ne l'a pas prise. Hein? Il n'était pas à sa place dans son ministère, dans son travail. Ok, il était chez lui. Il se la coulait douce. Ok. Et puis ça a commencé. Donc il a vu Bathsheba, une belle femme. Il a pris cette femme, il a fait tuer son mari, etc. On connaît l'histoire. Le résultat, c'est que le fils de Bathsheba meurt. Le fils aîné de David, Amon, a violé sa demi-sœur Tamar. Absalom, frère de Tamar, tue son demi-frère par vengeance. Absalom se révolte contre David. Il prend le trône et il couche avec les concubines de David. Absalom a été tué après. Vous voyez, ça fait que 3 fils de David sont morts. Pourtant, David s'est repenti, hein? Mais il y a eu des conséquences. Alors, quelle est l'heure la plus sombre d'un homme? L'heure la plus sombre d'un homme, c'est pas celle où il entre dans le lit pour commettre un adultère. C'est l'heure quand il refuse l'appel de Dieu, après l'adultère. Parce que des adultères, il n'y a pas que dans le lit qu'on en commet. Des adultères, on en commet beaucoup dans nos propres vies par rapport à ce que Dieu veut qu'on fasse. Si c'est ma voiture que je préfère plus que tout, c'est un adultère. Vous voyez, toutes ces choses-là. Qu'est-ce que Dieu veut? Quel est le chemin que Dieu a mis pour moi, devant moi? L'heure la plus sombre, c'est quand il refuse l'appel de Dieu. Les cieux se lamentent lorsque l'appel de Dieu n'est pas entendu. Dans l'Ancien Testament, Dieu voulait que les Hébreux s'approchent de la montagne sainte. Vous vous rappelez? 3 mois après leur entrée dans le désert, Dieu leur a dit, maintenant venez à la montagne sainte. Il ne fallait pas la toucher, cette montagne. Il fallait s'en approcher. Et puis, ils ont eu tellement peur de Dieu. Ils ont eu tellement peur. Ils n'ont pas su se tenir devant Dieu. Alors Dieu leur dit, retournez dans vos tentes. Terrible. Retournez dans vos tentes. C'est décevant. Les Hébreux adoraient alors de loin. Une façon de se sentir en sécurité, loin de Dieu. Ça évite de sanctifier son cœur tout en se rassurant. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et son alliance leur donne instruction. Alors je pose une question. Lorsque Jean à Patmos a eu la vision de Jésus, Jésus-Christ, qu'est-ce qui lui est arrivé? Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sa main droite sur moi en disant, ne crains pas. C'était pourtant l'apôtre, l'ami de Jésus, celui qui mettait sa tête sur la poitrine de Jésus. Quand il a vu le Christ, il est tombé par terre. Quand Pierre, Jacques et Jean étaient sur la montagne de la Transfiguration, ils ont été frayés d'une grande frayeur. Et il est dit, ils tombèrent sur leur face. Et Jésus a dit, veillez et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Rappelez-vous, quand les événements commenceront, les gens diront, ils se mettront à dire aux montagnes, tombez sur nous, et aux collines, couvrez-nous. Et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Dans Malachie 3:2, on lit, qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Mais Dieu a le pouvoir, lui, de nous tenir debout. Romains 14:4. Qui es-tu, toi, qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais s'il se tient debout, mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Vous voyez, pourquoi je dis ça? C'est parce que, avec cette histoire de péché, quand on clarifie les choses dans notre vie, dans notre fonctionnement avec le Seigneur, il faut d'abord bien clarifier la question, comment je vois Dieu, comment je ressens Dieu? Est-ce que je ressens que c'est un Dieu qui me veut mon bien? Alors si c'est ça, alors je peux lui obéir. Et si je peux lui obéir, c'est ce qu'il y a de plus important dans ma vie. Quelles sont les priorités de ma vie? C'est quoi les priorités de ma vie? Bon, et à ce moment-là, si j'ai trouvé les priorités de ma vie, alors maintenant, Seigneur, montre-moi, indique-moi ce que tu attends de moi. Et je veux que tu me répondes. Si j'ai encore des péchés dans ma vie, des choses qui ne sont pas nettes, montre-les-moi par ton esprit. Je veux me repentir si ce n'est pas net. Je veux changer. Je veux marcher dans tes voies. Je veux que tu m'indiques parce que tu l'as promis. Et à ce moment-là, le Seigneur dit, il se tiendra debout car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Il se tiendra debout. Je vous assure qu'il y a de nombreux chrétiens qui ne tiendront pas debout à la venue du Seigneur. J'en ai une conviction, parce qu'ils sont trop légers. Ils sont trop légers. Ils ne font pas attention. Ils n'ont pas mis les priorités dans leur vie. Ils courent après les bénédictions de Dieu et non pas après Dieu. Le Seigneur est fermement décidé à ne perdre aucune de ses brebis. Approchons-nous de lui. C'est pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Que le Seigneur vous bénisse.